Parfait. C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, eh bien, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et j'ai le grand plaisir ce matin d'être accompagné de Monsieur Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée du jaune moutarde puisque nous avons tous les deux mis le même sweat. Alors, si vous étiez en direct sur Twitch, vous pourriez le voir, pourriez contempler ça. Je sais pas si c'est annonciateur.
Extrêmement raccord, extrêmement aligné.
Ouais, c'est annonciateur de quelque chose, je sais pas, mais on saura dans la journée.
C'est aussi une des couleurs de l'année 2022, on en a parlé.
Exactement.
Avec le Pinterest Predict, voilà.
Ouais. Okay. On s'est mis vraiment dans les tons, là, pour être en forme pour 2022.
Allez, les amis, quoi de neuf dans vos tablettes social media ces derniers jours? Camille, est-ce que tu veux commencer?
Eh bien oui, tiens, je vais commencer. Je vais te parler de Horizon World. T'as vu cet accent? Incroyable.
Pas mal, ça s'améliore, ça commence à s'améliorer.
11 épisodes en arrière, on testait Roblox, la plateforme de gaming précurseur du Metaverse. Pour rappel, c'était un petit mois après l'annonce du groupe Facebook qui devenait le groupe Meta pour coller un peu plus à ses ambitions de devenir le roi justement du Metaverse et de l'immersion totale. Vendredi dernier, Facebook entrait officiellement dans le Metaverse grand public en ouvrant aux US et au Canada sa plateforme Horizon Worlds. Au préalable, pendant les phases de test, une invitation d'un membre était nécessaire pour rejoindre cette plateforme qui est réservée aux plus de 18 ans. Alors, qu'est-ce que c'est Horizon World? J'ai regardé attentivement la bande-annonce, que je vous mets d'ailleurs en note de ce podcast, et clairement, au premier abord, c'est un peu les Sims. C'est un design alors qui est beaucoup plus épuré que ce qu'on a pu voir sur Roblox ou ce qu'on peut voir sur les autres plateformes type Minecraft. On n'est pas sur la promesse d'une plateforme de jeu totalement, mais
par contre, c'est totalement en réalité virtuelle.
Ah bah c'est totalement c'est en réalité virtuelle.
Avec le casque Oculus.
Voilà, alors les limites, hein, c'est plus de 18 ans et puis posséder le casque Oculus, donc réalité augmentée, de version 2 de Facebook. Hein. Donc on est quand même sur une grosse barrière à l'entrée, attention, si on a envie d'essayer ça. Donc là, on n'est pas sur la promesse d'une plateforme de jeu, mais plus sur la construction de l'avenir. Hein. Quand tu le regardes, ça fait très film futuriste, avec plein de méthodes pour construire des environnements, des lieux de parole. Et on passe un cap, c'est qu'on franchit un jalon dans le grand projet Meta, parce que cette plateforme, comme tu le disais, est en réalité augmentée et il faut se munir du casque Oculus. Donc pareil, on dépasse tout ce qu'on a vu sur Roblox. Il y a des jeux qui sont proposés, mais aussi des événements et des espaces d'échange. Donc ça fait vraiment un gros package complètement Meta.
Ouais, alors à noter que pour l'instant, c'est ouvert qu'aux utilisateurs américains, je crois.
Américains et Canada. Ça viendra peut-être chez nous. Déjà, je pense que ça va être un moyen de tester pour eux qui est équipé du casque. Est-ce qu'ils sont pas trop en avance aussi, hein, parce que ça demande quand même beaucoup d'équipement de commencer.
Ouais, bien sûr. Bah, moi, j'étais à deux doigts d'acheter un casque, sérieusement, hein, pour tester.
Je me suis mis une note. À quand le Oculus Quest chez Supernatif? Alors, je pense qu'il faudra qu'on attende d'avoir ces outils-là, parce que tu vois, là, on est déjà sur le Oculus Quest 2. Le jour où ça arrive ici, on est peut-être sur le 3, hein, pour...
Oui. Mais non, mais on va s'équiper, on va y aller, nous. Et puis on vous fera, on a testé Horizon. Bah, alors pour
avec le fauteuil et tout comme ça. Là, tout.
allez les amis, on va rester dans le groupe Meta. On va partir du côté d'Instagram. Instagram qui ajoute de nouvelles fonctionnalités pour offrir plus de protection et de bien-être aux jeunes utilisateurs. Instagram a annoncé une nouvelle option de contrôle parental qui va permettre aux parents et aux tuteurs de fixer des limites sur le temps que leur adolescent passe dans l'application. J'ai envie de dire enfin.
Instagram, voilà. Tu veux dire du groupe Meta, hein, pas du groupe Facebook.
Du groupe Meta, ouais. Exactement. En plus de ça, bien les utilisateurs adolescents vont pouvoir désormais informer leurs parents s'ils signalent quelqu'un, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui vient les faire chier, etc., et qu'il le signale à l'application, ça va aussi le signaler sur le compte contrôle parental, ce qui va peut-être permettre aux parents d'être un petit peu plus impliqués, hein, dans ce sujet, ouais. De dire tiens, oula, il y a alerte actuellement. Et Instagram explique que c'est une première version, hein, qui vont développer une série d'outils permettant, voilà, de gérer pour les parents, de gérer davantage l'accès à cette plateforme Instagram à leurs enfants. En plus de ça, eh bien, Instagram a aussi officialisé le lancement d'une nouvelle fonction de notification qui s'appelle Faites une pause. On en avait déjà parlé, ouais. Ici dans Youpi, c'est lundi. Cette nouvelle option, elle permet qu'au bout d'un certain temps, eh bien, l'application te dit hey, ça fait déjà 2 heures là que tu scrolles tes Reels Insta, faut peut-être s'arrêter. Donc tu vas avoir une petite notification que tu peux paramétrer avant, dire toutes les 30 minutes ça m'informe, etc. Alors ça coupe pas non plus l'application.
Oui, pas comme chez Douyin en Chine.
Voilà, là t'as une petite notif. Hein. C'est des good news, mais des good news qui tombent quand même étrangement au très bon moment hein, pour Instagram. Parce qu'on pour souvenir, en septembre, avec l'affaire des Facebook Files, eh bien, on découvre que plusieurs rapports internes de la société ont été publiés, que ces rapports prouvaient que le groupe Meta était au courant que Instagram était préjudiciable, était dangereux au jeune public et que la société avait décidé d'en avoir rien à foutre. Hein,
et que
clairement.
Pour autant, ils voulaient quand même développer un Instagram pour les enfants.
Voilà. Et bien, résultat des courses, Meta se retrouvait une fois de plus dans la tourmente, on va dire, dans la panade, et le Sénat américain a même demandé des explications directement au patron d'Instagram, donc Adam Mosseri, qu'on aime beaucoup ici, Adam avec ses jolies petites lunettes rondes et qui a l'air très sympa, il s'est retrouvé devant le Sénat à expliquer non, Instagram c'est bien, on fait attention. Et en plus, j'ai des bonnes news, puisqu'on a toutes ces nouveautés là, on travaille depuis longtemps dessus et elles sortent maintenant très étrangement. Voilà.
Ça tombe au bon moment.
Ça tombe au bon moment.
De toute façon, on parle du groupe Meta maintenant, on parle plus du groupe Facebook. Hein.
Non.
Tout ça est balayé.
Oui, c'est ça.
Et balayé d'un simple changement de nom.
Toutes
attention.
Les conneries du groupe Facebook sont loin derrière.
Eh bien, en parlant de conneries, moi, je vais te parler de Twitter. Twitter qui va baisser les masques sur son nombre de modérateurs. Depuis 2020, un certain nombre de poursuites judiciaires sont en cours contre Twitter. On en a déjà plusieurs fois parlé dans les Youpi, c'est lundi. Estimant que l'entreprise manquait de façon ancienne et persistante à ses obligations en matière de modération et notamment sur le sujet d'incitation à la haine. Au départ de cette plainte en France, des associations anti-racisme et anti-homophobie reprochant à Twitter une augmentation de 43% des propos haineux, notamment pendant le premier confinement. Ces associations, elles avaient signalé 1110 tweets haineux et constaté que seuls 12% d'entre eux avaient été supprimés dans une période raisonnable de 3 à 5 jours. Donc ça, ils arrivaient avec un dossier solide. Hein. Début juillet 2021, le juge en charge avait donné à Twitter une ordonnance de communiquer dans un délai de 2 mois des documents détaillant ses moyens pour lutter contre la haine en ligne. Jeudi dernier, plus de 2 mois, je me suis fait la remarque. Jeudi dernier, Twitter a donc pour la première fois été contraint d'indiquer le nombre de modérateurs qu'il employait dans le monde. Le résultat est de 1867.
Pas énorme.
1867 pour plus de 300 millions d'utilisateurs mensuels. Donc ça fait quand même un sacré
ils ont du boulot.
Paquet de taf. Là où il serait plus de 35 000 chez Facebook. Hein, on a fait plusieurs épisodes là-dessus. Alors attention, des free machin, mais ça en fait beaucoup plus. Ce que répond un Twitter à tout ça, c'est qu'ils essayent pas de résoudre le défi de la modération à grande échelle avec juste des moyens humains, mais eux ils misent beaucoup sur la modération algorithmique. Alors on voit qu'aujourd'hui c'est pas totalement au point, mais les humains seraient plus là pour modérer les contenus et les algorithmes, tout ce qui est haine raciale, etc. Plus mots quoi. Donc c'est voilà. C'est un chiffre assez pitoyable.
Ouais. oui, bah
1867, le chiffre de la semaine.
Forcément. Allez, on reste du côté d'Instagram. Instagram qui annonce le retour très attendu au feed chronologique. Voilà, bah c'est fait. Hein. Après,
oh, je croyais que t'allais me dire la grille de 4.
Non, ça fait 5 ans qu'Instagram prévoit de ramener une version de son flux chronologique. Hein. On se souvient initialement, Instagram, bah, c'était cet espace de partage de photos où mes contenus étaient publiés par ordre, s'affichaient par ordre antéchronologique, c'est-à-dire les plus récents d'abord, et puis j'étais à peu près garanti de voir tout le contenu de mes potes ou des pages ou des comptes que je suivais. Sauf qu'entre-temps, bien évidemment, il y a eu beaucoup plus d'utilisateurs, beaucoup plus de contenu, et Instagram habilement s'est appuyé sur les connaissances algorithmiques du groupe Meta pour intégrer un algorithme dans Instagram. Et là, le début des embrouilles ont commencé pour les créateurs de contenu avec tout ce qu'on connaît, la chute de la partie organique, etc. Ça, c'est pour le petit résumé rapide. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Mosseri, encore lui, devant le Sénat, a annoncé cette news. Hein. Là aussi, ça tombe bien de faire une petite annonce scoop comme ça. Il a annoncé devant le Sénat que voilà, ils allaient revenir à un flux chronologique. Alors attention, évidemment pas 100% chronologique, mais plutôt l'objectif, ça va être de laisser le choix aux utilisateurs d'Instagram de maîtriser ce qui se passe dans leur feed. Au lieu de leur imposer un classement algorithmique, eh bien tu vas avoir la possibilité de trier, de filtrer ton feed avec le lancement d'une option flux chronologique. A priori, tout début de 2022, donc c'est quand même une bonne news. Et là, ça c'est quand même intriguant parce que c'est un renversement majeur hein, pour l'application de partage de photos, vidéos, etc., qui a toujours défendu son flux algorithmique malgré le fait que depuis 5 ans, ses utilisateurs lui réclament. Alors là, peut-être est-ce pour s'offrir un petit peu d'air hein, face au Sénat, peut-être qu'ils feront machine arrière plus tard. Mais en tout cas, tu vas avoir la possibilité ben, de trier soit favori, qui va être la version algorithmique, soit dernier. Et là, tu vas avoir bah, tout par ordre antéchronologique.
Donc, de base, rien de modifié, mais t'auras
une option. Voilà.
Ok. Bah, c'est un peu ce qui a été annoncé chez Facebook il y a, on va dire, quelques mois sur les pages, la possibilité d'avoir un double flux ou de sélectionner
exactement,
l'ordre.
Que personne n'utilise.
Bah ouais. Ok. Alors, voilà. J'étais en train d'écouter ce que tu me disais jusqu'au bout attentivement en me disant, putain, ça veut dire que maintenant on va devoir dire à nos clients finalement les carousels et les reels, c'est plus si, ça met pas tant en avant tes contenus. Si personne va utiliser cette fonction de tri.
Pas vraiment. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance.
Beaucoup d'Instagram aujourd'hui. Moi, ma dernière news, concerne aussi Instagram. Elle est super cool et c'est peut-être même, attention, l'annonce la plus cool de cette fin d'année. Je trouve ça très cool. Instagram vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité participative autour de ses bobines. Les bobines, c'est le nom français des Reels. Hein. Je fais un petit peu de suspense. On va désormais pouvoir répondre à un commentaire sous un post directement avec un Reels. Si par exemple un utilisateur vous demande comment utiliser tel produit ou est-ce que votre choucroute est appétissante,
je peux répondre en vidéo.
Tu peux répondre en vidéo, donc tu feras répondre et là on te peut, comme quand on est dans un message privé, quand tu feras répondre, au lieu d'avoir juste la bande de texte en bas, tu auras aussi la possibilité de mettre une photo et qui c'est le petit picto photo qui t'amènera, si tu veux, à la création d'un Reels où tu pourras expliquer en moins de 30 secondes si ta choucroute est appétissante.
Question, c'est est-ce que ce reel est publié sur mon compte ou est-ce qu'il existe que dans les...
J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais je pars du principe que s'ils ont dit que c'était un Reels et pas une story, c'est qu'on est sur la création d'un contenu. Alors peut-être on dira, est-ce que vous voulez l'archiver? Est-ce que vous voulez le mettre seulement dans la grille de Reels? Est-ce que peut-être que je me fais des films? Mais quand on dit le mot Reels, pour moi, c'est quelque chose qui va être archivé.
Ah, très intéressant.
Sinon, ça aurait été une réponse en story peut-être.
Ouais, c'est vachement intéressant. Bah, sinon, ça ressemble à une sorte de GIF animé vidéo en fait.
C'est ça.
Parce que je peux me faire, en tant qu'animateur de communauté de marque, je peux très bien avoir ma galerie de vidéos et puis l'utiliser pour répondre et faire de l'animation communautaire.
Alors pour moi, pour l'instant, c'est plus un outil de réponse en vidéo, puisqu'on ne sait pas vraiment sous quel format vraiment il va être archivé. En tout cas, pour les TikTokers du premier âge, hein, ça ressemble à une vulgaire copie, puisque ça existe déjà sur TikTok. Donc, ce que je rappelle hein, visuellement, c'est que ce soit sur TikTok ou sur ce qu'ils viennent d'annoncer, tu prendras le commentaire, tu répondras et ça l'affichera au milieu de la vidéo. Donc ça, on le voit beaucoup sur
très
TikTok.
Intéressant. Okay.
C'est comme les réponses aux questions pendant un live en story, par exemple. Donc voilà, c'est un très bel outil. Et juste pour info, hein, Marquito a annoncé récemment que Reels était désormais le principal moteur de croissance de l'engagement sur la plateforme. Donc,
ça, c'est vachement intéressant en matière d'animation de communauté, de pouvoir rebondir sur le commentaire de quelqu'un sur ton compte de marque et créer un contenu
c'est
à partir de là.
C'est beaucoup plus engageant.
Très intéressant. Très intéressant. Allez, on va finir en beauté avec YouTube. C'est rare qu'on parle de YouTube finalement.
Ça doit être
cool.
Pas
si souvent, mais là, il y a une petite news assez cool. YouTube qui a décidé de rapporter un des principes de géolocalisation à ses vidéos. Il teste une nouvelle option qui fournira automatiquement un nouveau format de lien pour tous les endroits qui sont mentionnés dans les clips YouTube. Jusqu'à présent, quand tu crées un contenu, par exemple, tu dis « je suis à Euro Disneyland », en fait, ta vidéo, à aucun moment, elle est géolocalisée. C'est toi dans les notes qui rapportent potentiellement le lieu du tournage, etc. Cette nouvelle fonctionnalité, elle va détecter automatiquement où est-ce que ce contenu a été tourné, ou en tout cas, qu'est-ce qui est nommé, qu'est-ce qui est cité dans la vidéo. Alors comment, je ne sais pas, un mystère, de l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, demain, je fais mon tournage à Euro Disneyland, et bien il y aura quelque part en dessous, dans le champ de description, une petite carte avec le lieu d'Euro Disneyland, et puis un lien pour peut-être, on attend de voir, accéder à toutes les vidéos qui auront été géolocalisées à Euro Disneyland. Du coup, un fonctionnement comme ça, un peu de navigation par lieu. Intéressant, franchement, j'aime bien cette idée. Je vous mets un lien vers l'annonce de YouTube qui reste assez floue pour l'instant. Donc, on va voir ce que ça va donner.
Thibaut, je tiens à te dire que plus personne en France ne dit Euro Disneyland, ni même Euro Disney. Hein. Franchement... Et bah YouTube s'appuie sur l'algorithme Google, hein, n'oublions pas, YouTube ça fait partie à Google, et clairement c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans les images. À l'époque où tu peux envoyer une photo et qu'on te suggérait des trucs qui ressemblent, ils ont la capacité en tout cas numérique d'identifier des points de focus, et puis bah là aussi ils se réouvrent vers le SEO, vers la navigation native qui était peut-être un peu perdue sur cette plateforme, quoi.
Voilà les amis ce qu'on pouvait se dire ce matin, pas mal de news, peut-être qu'on en a raté, sans doute qu'on en a raté. Si vous souhaitez venir nous nourrir, eh bien n'hésitez pas, ça se passe sur les réseaux sociaux @supernative, sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, partout.
Soyez nous, on vous emmènera à Euro Disneyland.
Voilà. Et puis les amis, écoutez ce podcast dans une application de podcast. Un grand merci à vous. Si vous êtes sur Apple Podcast, je vous demande un service maintenant, tout de suite. Vous mettez 5 étoiles, puis vous mettez un commentaire. Pourquoi ? Bah d'une, pour nous faire plaisir, et de deux, eh bien de deux parce que ça nous donne un coup de pouce dans les algorithmes d'Apple. Voilà les amis, ce qu'on pouvait se dire. On se donne rendez-vous demain.
Ça marche, et ben bisous chez vous.
Allez, salut tout le monde. Ciao.